La première.
Oui.
22h, 23h.
Par Oui Dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par Oui Dire.
Par Oui Dire. Pourquoi c'est important l'art? Pourquoi c'est important de le faire?
L'art,
façon de voir,
c'est le plus court chemin de l'homme à l'homme.
Façon de voir.
Moi, je montrerai. Je montrerai tout.
Façon de voir.
Vert, rouge, jaune, violet.
Façon de voir.
Une œuvre d'art, et elle a un auteur. Et pourtant, bah, quand elle est parfaite, il y a quelque chose d'essentiellement anonyme.
Façon de voir.
Façon de voir.
Bon, c'est pas Picasso, c'est moi.
Façon de voir.
Façon de voir.
C'est quelque chose qui fait du bien à la tête par les yeux.
Façon de voir.
Façon de voir.
Façon de voir.
Bonjour. Bonjour Denise.
Ça va?
Je vous présente Thierry.
Bonjour.
Denise Birnaud, je suis la responsable de la galerie Les Drapiers. Les Drapiers, c'est un centre d'art contemporain, mais qui privilégie régulièrement le textile. Et donc, il y a des ateliers, une bibliothèque et des espaces, mais différents pour les expositions. Mais ça change chaque fois. Le textile, il n'est pas toujours là dans sa matérialité. Parfois, il est là aussi dans une façon de penser des choses.
Et ce lieu, Les Drapiers, qu'est-ce qu'il était avant, auparavant?
Ici, c'était une épicerie et derrière, c'était des logements, mais abandonnés depuis 50 ans. C'est un lieu que j'ai mis 15 ans à retaper. Et quand je l'ai acheté, je me suis rendu compte que la petite rue à côté s'appelait Les Drapiers. Alors, je me suis dit, c'est un nom pour moi. Parce qu'en fait, j'ai déjà été ailleurs et j'avais un autre nom. Mais quand je suis arrivée ici, pour moi, c'était une évidence. C'est un trop beau nom. Et on est dans le quartier des anciens artisans de Liège. Et en fait, les teinturiers, les drapiers lavaient leur tissu dans l'eau de la Légia, ici tout près. Donc voilà, je me suis dit, je suis juste à ma place. Donc voilà, c'est arrivé comme ça.
Il n'y a pas de hasard, on dirait.
Bien sûr. Il faut juste en profiter quand ça passe.
Dans le cadre du BIP 2024, les drapiers présentent une nouvelle exposition consacrée aux matérialités invisibles au travers du travail artistique de Claire Williams et des éthers, alias Claire Williams et Déborah Lévy. Pour plonger dans ces intangibles, les éthers ont assemblé appareils, instruments, corps et expériences bricolées. Elles manipulent différents types de matières telles que les rêves, la psyché, les ectoplasmes, l'aura, la magie, le magnétisme. Leur travail aborde les thèmes de substance, de fluide, de force, d'effluve, d'énergie, de rayonnement, d'ondes qui ensemble forment les éthers.
Vous êtes prête?
Oui, oui.
Oui, oui.
On est toujours obligé d'être prête.
Claire Williams, artiste.
Invitée à la galerie Les Drapiers.
Qu'est-ce que ça veut dire être prêt pour Claire Williams?
Prêt, c'est quand le cosmos veut bien que tout fonctionne parfaitement. Mais ça n'arrive jamais vraiment, donc je pense qu'on n'est jamais vraiment prêt.
Il est mal foutu, le cosmos, en fait.
Non, mais peut-être que c'est une bonne chose aussi que tout ne soit pas productif et fonctionnel. On aime bien travailler sur ces aspects-là, de fragilité et de non-productivité.
Donc on commence par ce qui ne va pas ou par ce qui va?
Qu'est-ce qui ne va pas? C'est plutôt justement comment on essaie de tenter de déceler ou de voir des choses qu'on ne comprend pas tout à fait. Et c'est plutôt ça mon champ de recherche. D'essayer de comprendre, d'enquêter aussi, beaucoup d'enquêtes. C'est toujours des formes très subjectives qu'on essaie de rendre tangibles des formes de la réalité. Et donc ce n'est toujours qu'une traduction. Donc dans les traductions, on perd des informations, on en gagne d'autres. Donc c'est plutôt à l'intérieur de ça qu'on va travailler dans les interstices, quoi.
Moi, ça aiguise ma curiosité. Comment est-ce qu'on fait justement pour ce qui est rendre visible ce qui est invisible? S'il devient visible, il n'est plus ce qu'il est, puisque normalement il est invisible.
Oui, donc le visible, déjà, c'est une forme dominante en Occident de se rendre compte du monde. Donc, ça aurait pu être d'autres sens qu'on aurait pu mettre en priorité. Et c'est le visible, c'est la vue. Donc, dans les instruments scientifiques, etc., tout a été dans le domaine du regard. Et du coup, du regard déjà de l'humain, de l'homme. Donc, moi, c'est beaucoup des choses qui m'intéressent. Dans la manière dont on a essayé de comprendre et de voir l'invisible à travers les sciences expérimentales du 19e siècle. Donc tout le monde s'attelait à fabriquer des machines, des instruments.
Qui ont des super noms.
Oui.
Je ne me souviens plus bien comme ça, mais...
Au 19e siècle.
Le nécrophore, c'est ça
Le nécrophone.
Le biomètre, le dynamomètre, le sténéomètre, le psychosophe, le nécrophone, le psychophone... Machine à mouvement perpétuel, phonographe, télégraphe, téléphone.
Le nécrophone
de Edison, ouais. Ça, c'est un projet occulté et avorté aussi, mais ouais. Il y a la planétaire là de Birkin. Enfin, il y a des tonnes, la machine de Wimhurst. Il y a des tonnes de machines qui ont été fabriquées. Et à l'époque, on fabriquait avec de l'artisanat, parce qu'on est dans sa cuisine, on fabriquait des instruments et des techniques, des investigations, parce que d'un seul coup, cet invisible, donc au 19e siècle, a été un invisible qui, d'un seul coup, était rempli de substances, de fluides, d'énergie, de tonnes de choses qu'on pensait où il n'y avait rien. Le début du 19e siècle, ça a été le début du télégraphe électrique, donc c'est la première fois où on envoyait, de manière désincarnée, des messages à d'autres personnes. Et donc ça a été l'avènement des télécommunications, mais c'était très très occulte pour des personnes à l'époque de parler, de communiquer avec quelqu'un de manière désincarnée, où ça ne venait pas d'un corps ou d'une voix humaine. Et en fait, avec tout ça, ça a emmené donc dans l'histoire des sciences qu'on connaît bien, celle des télécommunications, le télégraphe, la radio, donc le sans fil, le wireless, tout ce qui est invisible, et tout ce qui s'ensuit aujourd'hui. Mais ce qui est moins connu, c'est qu'en même temps, l'avènement de cet invisible, il y a aussi d'autres personnes qui sont rejetées des histoires des sciences et des histoires matérielles, sont les femmes. Et du coup, beaucoup de mon travail cherche à essayer de voir quelle était leur manière de, elles aussi, bricoler des choses dans l'invisible, qu'est-ce qu'elles produisaient. Et donc, ça a été, dans pas mal de mon travail, des choses aussi qui m'ont intéressée, de part parce que je me suis beaucoup intéressée à la question de l'électromagnétisme depuis déjà peut-être 10 ans maintenant. Et donc au moment du 19e siècle, donc on a ces télégraphes électriques qui apparaissent, on a aussi tout le mouvement spirit, donc les médiums qui, de toutes les classes sociales, utilisaient leur corps comme des télégraphes électriques, donc elles imitaient les circuits des télégraphes avec le médium qui était une sorte de batterie pour communiquer avec l'au-delà. Et donc dans ces invisibles, donc ces fluides, ces forces magnétiques, etc., dont on essayait de comprendre ce qui se passait. Il y avait aussi des entités, des extraterrestres, des choses occultes, des choses, des ectoplasmes, des choses dont on ne comprenait pas exactement comment ces formes pouvaient se manifester au travers d'instruments, au travers de corps. Donc les médiums rentraient en transe, c'est des entités qui venaient parler, au travers d'un tas de choses, du mobilier. Donc les questions de poltergeist, de hantise étaient extrêmement courantes à l'époque.
Les questions de poltergeist ?
Les cas de poltergeist, c'est par exemple quand des gens ont des manifestations d'énergie chez eux. Donc c'est les toc-toc dans les murs, les couverts qui bougent, l'esprit frappeur, c'est le nom qu'on donne en parapsychologie, le poltergeist. Tout ça m'intéresse beaucoup de voir aussi ce que c'est pas juste l'invisible dans le sens galvaudé du terme, parce que c'est un sens qui peut être utilisé à plein d'endroits, mais c'est vraiment aussi dans ces invisibles, il y a aussi d'autres invisibles. Et ce qui m'a aussi beaucoup intéressée, c'est que en cherchant un héritage là-dedans, c'est que ces femmes, en fait, collaboraient énormément avec les scientifiques de cette époque, donc avec tous les scientifiques qui ont inventé aussi toutes les télécommunications. Et ils ont travaillé qu'elles, sur elles, sur leur cas, pendant 2, 3, 5, 6 ans. Donc c'était pas une fois de temps en temps. Et donc on spécule sur ces questions aussi. On a bien spéculé sur la façon dont elles ont contribué, peut-être. Est-ce que l'inventeur de la radio a pu imaginer de créer des ondes radio parce qu'il étudiait des médiums qui pouvaient channeler avec l'invisible de manière sans fil. Et donc c'était une époque où on pensait, il y avait plein de choses, on pensait que qu'il n'y aurait plus de câbles dans le futur, tout se ferait par télépathie. Et donc, on découvrait aussi, évidemment, des substances. Donc, on découvrait les rayons X, après la radioactivité. Donc, il y avait aussi plein de choses qui étaient... tout le monde s'attelait à essayer de décrire, de comprendre.
Anna a sorti deux petites plaques transparentes et les a plongées dans l'eau marine. Elle les a ressorties et a enfermé l'une dans une boîte vide et l'autre dans une boîte qui contenait une grenouille céleste. Quelques minutes se sont écoulées
et intangible, Anna a ouvert les boîtes au drapier à Liège avec Claire Williams et les éthers
et, les a exposées quelques
et Denise Biernaud, aux vapeurs de responsable du Centre d'art contemporain Les Drapiers.
Sur l'une, on a vu se révéler des formes lumineuses aux contours brumeux. Sur l'autre, rien.
Donc cette pièce, c'est une pièce qu'on a faite avec Les Éthers. Et Les Éthers, c'est un projet où on a décidé, en découvrant toutes ces archives dont je vous parlais du 19e siècle, de créer un espace pour essayer de les étudier, les comprendre et les réactiver. Et on s'est intéressé dans ces archives-là justement à comment il y a eu des pratiques de l'invisible dans les sociétés industrielles. Parce qu'on parle souvent des pratiques de l'invisible dans d'autres pays, mais on s'est intéressé à celle d'ici. Cette question de aussi dire bah, il y a eu énormément d'expériences, mais beaucoup sont aussi des points de vue d'hommes. Et donc c'était cette question de, bah, comme je vous expliquais au début, d'essayer de dire mais quels étaient les rêves de ces mondes invisibles, quelles étaient les pratiques des femmes de ces époques-là, et comment on peut les regarder comme des formes d'héritage ou des manières où on puisse travailler avec elles et les réactiver. Et donc on est artiste, on n'est pas historienne ni scientifique.
Tu dis « on », c'est-à-dire ?
Les Éthers, ça a été, on a créé cet espace avec Claire Williams et Déborah Lévy. Et donc c'est à deux qu'on a investigué et on continue d'investiguer sur ces questions. On travaille sur des cas différents. Et ici, c'était l'idée d'essayer d'activer ces archives pour aujourd'hui voir qu'est-ce qu'on en fait, comment on les écoute. Et donc dans cette installation, donc c'est une pièce sonore et vidéo, on a ramassé plein des photos qu'on a trouvées des médiums du 19e, début 20e siècle. Il y a des textes qui ont été écrits par Déborah Lévy à partir d'expériences qui ont eu lieu réellement dans ces expériences qu'elle faisait de manière collective ou individuelle, mais souvent dans des choses collectives. Et donc, c'était comment on pouvait réactiver ces textes en les ramenant dans une autre forme littéraire ou poétique aussi. On est dans un espace où ces interfaces vidéo ramènent aussi ces personnes qui ne sont plus de ce monde et qu'elles nous racontent ce qu'elles ont fait ensemble.
Ah, mais si on allait écouter.
Oui.
Produire des lumières. Eusapia a dit qu'elle pouvait, mais qu'il ne fallait pas rompre la chaîne. Marie s'est retournée et a frotté ses mains. Eusapia lui a dit de ne pas s'éloigner. Marie s'est rapprochée de l'homme et a continué à frotter ses mains. Rien ne s'est produit. Eusapia a dit à Marie de tourner les doigts vers la table. On a vu une étincelle. Eusapia a touché les cheveux de Marie. On a vu une lumière sortir de sa tête.
Intangible, Claire Williams et les Éthers, au Drapier, à Liège, du 23 mars au 11 mai.
Quelle est l'expression momentanée de la vie universelle travaillant en nous et se manifestant autour de nous ?
Donc, les phénomènes dits de matérialisation, une étude expérimentale de Juliette Alexandre Bisson, qui date de... 1921. 9 avril 1909. Résumé d'un conte. Après une demi-heure d'attente, on voit sur les mains du médium de points lumineux ressemblant à des pierres précieuses dont l'intensité croît et décroît sans que les mains aient bougé. Les rideaux se ferment. Puis on voit apparaître une figure d'homme dont on peut distinguer les moustaches et qui est coiffée d'une sorte de turban brillant. Deux fois le même phénomène se reproduit. Les rideaux sont insuffisamment ouverts. On ne voit pas le médium en même temps que la manifestation.
Cette œuvre, Les Télépathes, fait résonner des sculptures de verre au moyen de fréquences de l'activité neuronale de rêveurs ou de personnes en état de coma profond, en imaginant un dispositif télépathique où leur activité électrique navigue sous forme d'ondes et de sons. Cette installation prend comme terrain d'exploration les états de somnolence, hypnotiques ou comateux. Elle questionne la matérialité de notre conscience dans ce qu'elle a de commun avec celle des machines façonnées par les humains. Elle imagine ainsi une sorte de conscience collective, parallèle, un monde spectral formé de nos activités électromagnétiques et psychiques.
C'est une pièce que j'ai créée autour de la question des ondes électromagnétiques qui émanent de nos corps. Parce que comme j'avais déjà beaucoup travaillé les ondes électromagnétiques qui émanent du soleil, les ondes électromagnétiques qui émanent de nos appareils électriques sur pas mal de projets. Et cette fois-ci, j'avais envie de vraiment m'intéresser à celles que notre corps crée de manière naturelle. Et ce qui m'intéresse, c'est que ces ondes, en fait, électromagnétiques, sont de la même nature que celles des circuits électroniques ou de nos ordinateurs. C'est vraiment la même nature. Et donc, je sais que c'est intéressant. Et en faisant pas mal de recherches, je me suis beaucoup intéressée à des concepts, donc le concept de la noosphère de Vladimir Vernadsky. Ételière
de Chardin.
Ouais, Ételière de Chardin qui a retravaillé sur ces choses-là. Et je trouve ça vraiment intéressant, la noosphère. Donc, comment on peut imaginer aussi une couche comme la biosphère, pas faite d'eau et d'oxygène, mais de notre activité psychique. Et comment on pourrait la considérer comme une énergie avec toutes nos formes de pensée, de création, hein, de, ouais, cette énergie psychique.
Donc,
comme
ce qu'on entend là, c'est une énergie psychique.
Alors, je vais vous expliquer, oui.
On traduit. Que je vous parle, on entend ces sons.
Ouais. C'est une traduction. C'est toujours une traduction. On essaie de ça. Le tout but, c'est comment on traduit ces énergies, en fait. Et à chaque fois, c'est des choix. Et donc, dans ce projet, j'étais partie sur cette question-là. Et ça m'intéressait comment ces états de somnolence, que nos états hypnotiques, les moments où on dort, comment aussi ces satellites, nos machines qui ronronnent en même temps, est-ce que pendant qu'on rêve, nos activités psychiques rejoignent comme une sorte de maillage électromagnétique avec toutes celles de l'activité de nos machines. Étant donné que quand on rêve, notre activité cérébrale, elle crée des ondes à des différentes fréquences. Donc, quand on est dans des états de coma profond, par exemple, on peut mesurer avec des antennes, donc les ondes qui émanent de notre activité neuronale, elle est entre 0,5 et 3 Hz. Quand on est dans un coma profond, dans un rêve très profond, c'est de 3 à 7. Et après, quand on est dans un état un peu de hypnagogique, celui avant de dormir, c'est encore un autre. Et quand on est éveillé...
Hypnopompique.
C'est
lui quand on... Oui,
hypnopompique.
Il y a l'hypnagogie quand on s'endort et l'hypnopompique quand on se réveille.
Ah ouais, je ne connaissais pas hypnopompique.
C'est un traducteur roumain qui m'a appris ce mot.
Ah ouais, je ne savais pas du tout, ouais. Et donc je trouve ça intéressant parce qu'on a ces variations et vraiment notre corps il change comme une antenne, comme un circuit électronique. Et donc j'étais en train de me demander mais comment est-ce que je pourrais travailler sur ces questions-là. Et en fait du coup je me suis rapprochée, j'ai été rencontrer les chercheurs et chercheuses du centre de neurosciences à Liège, au CHU à Liège, qui travaillent sur ces questions très existentielles. C'est la question de la conscience. Est-ce qu'on est conscient quand on est dans des états de coma profonds? Ils étudient plein de choses, par exemple les questions de mort imminente. Donc, ils ont vraiment plein de recherches autour de ça. Et je me suis approchée plutôt du département qui travaille avec les personnes dans des états de coma profonds, donc le Coma Science Research Group. Ils m'ont expliqué comment ils faisaient quand des gens sont dans des états de coma. Donc, eux, en tant que chercheurs et chercheuses et médecins, c'est de déceler les états de conscience de personnes qui sont vraiment dans des états de coma profond, donc qui ne réagissent plus physiquement à leur environnement. Il y a plein de degrés différents à ça. On a beaucoup discuté de ça. Et pour mesurer ça, en fait, on met un casque qui s'appelle un casque EGG. Et c'est un casque avec, ça va de 256 électrodes, ceux du CHU. Donc en fait, c'est juste des petites bobines en cuivre qui sont placées sur notre crâne. Et c'est ça qui va mesurer chaque activité ici, et donc on va avoir plein de valeurs, de données différentes. Donc comme je vous disais, c'est des fréquences différentes qui vont émaner. Et à partir de là, les scientifiques, ils regardent sous forme visuelle un spectrogramme, vraiment comme une machine, un séismomètre, c'est exactement le même genre, pour déceler quelle fréquence il y a ou pas. Et évidemment, nos instruments sont assez pauvres, parce qu'on ne sait pas ce que c'est la conscience. C'est aussi...
Est-ce qu'elle est interne? Est-ce qu'elle est externe?
Ça c'est une grande question philosophique. Ouais. Non, personne n'a la réponse, ni les scientifiques, ni personne. On ne sait pas ce que c'est la conscience. Et donc c'est vraiment des sujets. Mais on a des machines qui peuvent déceler ce genre d'énergie, mais on va dire de manière assez simple.
Donc ici, Comment est-ce que vous obtenez toutes ces vibrations, en fait?
Donc ici, sur cette pièce, le CHU m'a donné accès à toute une base de données qu'ils avaient, de manière anonyme, de personnes qui sont dans des états de coma profond. Et donc, chaque pièce en vert correspond à une de ces petites électrodes qui est sur le casque. Et donc, c'est à peu près 15 minutes d'enregistrement d'une personne.
C'est donc, une seule personne ici?
Non, il y en a une trentaine.
Une trentaine en même temps?
Non, non. Donc, c'est vraiment comme si ça, c'était le casque. Ouais. Enfin, là, il y a 46 pièces en vert. Donc, à la base, il y a 256 électrodes. On a mappé, donc on a regroupé les valeurs de chacune parce que c'était énorme de faire 256. Et c'est comme si le casque était mis à plat, en fait. Donc, c'est un portrait d'une personne à chaque fois, donc un vert. Donc ici, la traduction a été de manière visuelle. Donc, on voit des lumières bleues qui scintillent. Et donc, on a décidé de traduire ces valeurs en fréquences lumineuses. Et vous entendez, ce sont des billes. Et donc, autour de chaque verre, il y a des bobines que j'ai créées moi-même, donc qui sont les mêmes bobines aussi qu'on utilise sur les casques. Et j'ai mis des petits aimants à l'intérieur. Et donc, eux réagissent aussi. On envoie ces fréquences qu'on a traduites sous forme de son. Et donc, c'est vraiment une traduction de comme chaque petite cellule, petite électrode du casque qui est ici dans un verre. Et donc là, c'est à peu près 15 minutes. Vous allez voir, quand il y a un moment où ça s'arrête, ça reprend, ça veut dire que c'est le portrait de quelqu'un d'autre. À chaque fois dans mes œuvres, j'essaie de capter l'invisible. Là, ce que je voulais vraiment, c'est d'essayer de fabriquer l'invisible. Et je dis, bon, est-ce qu'on peut essayer à un moment donné de venir fabriquer quelque chose dans cet invisible? Et donc, c'est pour ça que j'ai proposé de travailler avec le laboratoire Sésame. Donc, c'est le laboratoire de recherche à l'Université de Liège qui travaille autour des questions des nanomatériaux et nanotechnologies. Donc, eux fabriquent et observent la matière à l'infiniment petit. Donc, on est à la taille quasiment atomique, en fait, de comment on regarde les matériaux et comment on les fabrique. Ils ont bien voulu de moi. Parce que je leur ai dit, mais est-ce que je peux fabriquer l'invisible? Donc là, on est parti sur un projet où j'ai aussi interrogé pas mal de personnes, Dominique Sluss, qui cherche l'énergie noire et la matière noire. Enfin voilà, comment aussi dans les pratiques scientifiques, on regarde le monde et on regarde les invisibles et comment on regarde ce qu'on ne connaît pas encore. Donc ça, c'est aussi, ça m'intéressait de voir qu'est-ce qu'on encore ces instruments, mais d'une autre manière. Et donc pour ce projet-là, avec le labo de Sésame, on grave sur des poussières cosmiques, donc on appelle des micrométéorites, donc c'est celles sur lesquelles on essaie de graver, on va dire qu'on les voit encore à l'échelle de notre œil où c'est un grain de café moulu, on va dire. Et donc là, on grave des dessins. Bah, pour vous donner un ordre d'échelle, c'est un sixième, si on prend un cheveu et on coupe le diamètre en 6, on est à peu près à cette taille-là, donc on est autour de 25 nanomètres, 50 nanomètres. Ouais, c'est vraiment tout petit. Là, on est en train de graver sur ces poussières, donc c'était qu'est-ce qu'il faut graver, donc c'était plein de recherches sur de qu'est-ce qu'on doit mettre dans l'invisible. Et donc là, on grave des machines et des objets que on voit dans nos rêves. Donc j'ai un cercle de rêveuses et c'est un cercle où on partage des rêves. Et donc là, on s'est dit, on peut mettre des intentions dans nos rêves. Et donc là, on a commencé une exploration, parce que c'est un projet qui est toujours en cours, sur comment on peut matérialiser des rêves. Donc ça nous intéressait de penser ça. Donc c'est un projet autour de ces questions-là. Parce que le but, c'est que là, vous allez voir la pièce qui, ici, on le voit à l'échelle de l'œil. Donc il y a une lumière qui traverse un tube dans lequel on a gravé donc des dessins issus de nos rêves. Et dans un futur proche, ou longtemps, on ne sait pas, l'idée, ce serait de renvoyer ces météorites dans l'espace pour les relancer dans l'air avec ces gravures et qu'elles orbitent autour de la Terre. Et donc là, le projet est en cours. Donc c'était cette idée un peu de comme si on pouvait fabriquer nos propres satellites, mais des satellites très différents de ceux d'Elon Musk, évidemment, étant donné qu'on...
Moins gênant.
Oui, voilà. Et on renvoie ce qui vient du cosmos. On renvoie, on ne fait juste qu'enlever un peu de matière.
Ils ne font jamais rien selon un ordre prédéterminé. Ils n'exécutent une action qu'en fonction des actions précédentes. En conséquence logique de quoi, ils ne produisent aucune représentation d'état à venir. Rien de ce qu'on appellerait programme au plan. Ou plutôt si, ils en produisent. Comment pourrait-on sinon faire quoi que ce soit ? Seulement, ces représentations sont malléables, elles sont plastiques, de façon à pouvoir être modifiées à tout instant, de façon à pouvoir prendre en compte les effets de leur action. Ça paraît préférable, n'est-ce pas ? Évidemment, elles contiennent moins d'informations, moins d'indications. L'essentiel seul y est inscrit. Il est clair que pour accepter cette façon de faire, il ne faut pas vouloir tout contrôler. Il faut pouvoir laisser les choses se faire et avoir un autre rapport à la totalité. Je ne dis pas que ce n'est pas inconfortable. On ne peut jamais se reposer sur rien. Il faut une attention de tous les instants. Mais si on y réfléchit un tant soit peu, on se rend vite compte qu'il suffit de faire moins de choses. Et ce n'est pas plus mal. La version de Deborah Levy, parue chez Alia, Deborah Levy est associée à Claire Williams dans Les Éthers.
Et Claire Williams, vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite. Ça s'est passé comment ?
Dans quoi ?
Parce que cet intérêt pour l'invisible, pour l'inaudible, pour l'infiniment petit, pour voir ce qui ne se voit pas.
Oui, tout le monde veut des histoires comme ça, mais je ne sais pas, c'est juste vraiment une curiosité, une fascination, essayer de comprendre, mener des enquêtes, c'est des choses que j'adore faire. Je me retrouve dans des milieux très différents, avec des astrophysiciens, des parapsychologues, des ufologues, des médiums, des sorcières. Et ça m'intéresse d'être vraiment, de voir comment les gens regardent, pensent le monde à travers leurs recherches. Donc, je suis plus une artiste, donc c'est un peu ce chouette rôle où on peut passer dans tous ces différents mondes sans jugement. On est juste en train d'essayer de comprendre comment les gens, comment ils réfléchissent au monde, pourquoi on est dans ce monde et comment on a des tentatives d'essayer de comprendre ces choses-là qui nous dépassent et dont il n'y aura jamais une explication. C'est des œuvres d'art, mais en même temps, beaucoup de mes grandes inspirations sont des personnes dont, par exemple, Daphne Oram. Et donc, Daphne Oram dirigeait la BBC Radiophonic Workshop. C'était à l'époque où on créait de la musique électronique, mais qui était vraiment... Allez, il n'y avait pas de moyens, c'était pas de la musique à l'époque, donc c'était les choses qui étaient faites un peu dans la cave de la BBC. Et elle, une de ses grandes obsessions, c'était un rêve depuis l'enfance, c'était de faire la Oramics Machine. Et donc c'était une machine où elle voulait qu'on puisse dessiner des sons. Et donc elle a dédié sa vie à ça, elle n'avait plus rien dans son frigo. Elle a fabriqué cette machine qui est incroyable, où on peut peindre donc sur des surfaces transparentes comme des sortes de rhodoïdes, des figures, et sa machine pouvait du coup lire ça en tant que son, donc c'était comme ce genre de choses. Et donc ça, c'est par exemple, c'est des choses qui m'ont aussi beaucoup marqué dans ce genre de machine, mais qui sont aussi poétiques ou qui sont vraiment façonnées par rapport à un rêve et à l'encontre aussi de la manière aussi dont les technologies aujourd'hui... ça c'est aussi tout des recherches aussi sur comment les technologies que nous avons, qui les fabrique pour qui, comment elles sont faites. Et donc ça, c'est aussi plein de recherches dans des milieux collectifs où on questionne ces notions-là de comment on peut investir avec des pratiques cyberféministes ou ce qu'on appelle technoféminisme, fabriquer nos propres circuits, nos propres machines qui sont aussi faites autrement que celles qu'on nous impose. On pourrait imaginer des ordinateurs mous ou faits en broderie plutôt que des ordinateurs durs, industriels. Et comment est-ce que l'efficacité de ces machines, est-ce qu'on doit faire des choses qu'on entend très fort ou est-ce qu'on peut être aussi toute une pratique de micro-énergie enfin, c'est ces questions de choses qui sont petites, faibles. Ça, c'est aussi toute une des recherches vraiment dans des milieux collectifs où on questionne, où on fabrique des choses autour de ça. Mais c'est, je pense que c'est aussi la question de réinvestir aussi ces pratiques-là, vu que bah, c'est principalement des hommes blancs occidentaux qui créent toutes les technologies aujourd'hui qui nous entourent. C'est comment aussi on peut dire, bah, nous, de quoi on a envie, comment on peut réimaginer d'autres manières de penser le monde à travers ce qu'on fabrique. Ça, c'est des choses qu'on fait en artisanat, en art, enfin dans plein de pratiques, mais c'est un champ qui nous intéresse aussi beaucoup. Et aussi, c'est des pratiques militantes. Donc, c'est aussi dire, bah, on réfléchit à ces outils. Et donc, c'est ça, bricoler dans sa cuisine avec des choses locales, par exemple, broder des haut-parleurs, c'est tout un autre geste que tu fais. Et qui peut les broder? Qui a accès? Comment tu déconstruis des choses qui existent pour en faire autre chose, quoi? Et ça, c'est des choses que je fais beaucoup. Bah, même je donne beaucoup d'ateliers en texte électronique. Bon, ouais.
Ça rejoint certaines pratiques magiques, la broderie aussi.
Oui, c'est clair. Bah, je viens du textile, donc je suis drapier aussi parce que Denise, qui était ma prof d'histoire du textile, c'est un art toujours très présent dans mon travail, même si j'utilise moins de textile, enfin pas toujours du textile au sens propre. Mais vraiment, le textile, pour moi, c'est comme dans toutes mes œuvres, c'est vraiment cette question d'interface. Et c'est comment une interface extrêmement fine peut nous faire passer d'un monde à un autre. Et donc, dans beaucoup dans l'histoire du textile, les textiles ont des pratiques, elles sont encodées d'énergie, d'histoire. Un exemple, c'est les broderies des Shibibo Konobo. Donc ça, ça déclenchait vraiment tout mon travail autour de l'électromagnétisme. Donc c'est des broderies qui ont des figures très fractales, géométriques. Et j'ai lu un article où en fait on expliquait que donc chez les Shibibo Konobo, c'est les femmes qui brodent. Shibibo Konobo.
C'est où ?
C'est un peuple qui vit dans la forêt amazonienne ou dans plein de disséminés. Et en fait, donc les femmes chantent l'Icaro, qui est le chant traditionnel, et elles brodent ces broderies vraiment avec des figures géométriques très particulières. Et chacune brode exactement le même motif. Donc il y a une forme d'encoder les sons dans les broderies. Et ensuite, ces broderies servent au chaman et qui va les porter. Et pendant la séance, donc la séance où le chaman va prendre l'ayahuasca, il va en fait relire les motifs, et les motifs vont apparaître dans le monde de l'invisible. Et c'est ces motifs qui lui servent de guide pour aller voir les esprits qui vont venir, du coup, dans le cercle, venir guérir les personnes qui sont là. Donc ces broderies, c'est comment ces broderies sont vraiment l'interface entre le visible et l'invisible, et juste d'une manière très fine. Enfin, y a vraiment cette forme-là qui m'intéresse, de pas grand-chose, de presque liminal dans la manière dont c'est fait, enfin, plein de questions. Ouais. La manière dont les textiles font partie aussi de ressources collectives, celles de la nature, de collaboration avec les plantes, etc. Enfin, de comment on va fabriquer des métiers à tisser aussi avec nos corps. Et donc, ça fait partie, donc, dans toutes mes œuvres, c'est vraiment ces questions d'interface. Je pense qu'il m'habite toujours depuis que je fais du textile. Ouais.
Je pense que quand je te voyais installer ton œuvre là derrière, je te revoyais en dessous d'un métier à tisser, attacher des fils. Et là, c'était tous les câbles électroniques et tout ça, mais tu étais dans le même rangement de fils pour que ça devienne quelque chose. Et c'est, enfin, moi, ça me touchait fort, que j'y avais même pas pensé. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi dans cette pièce-là, c'est donner une forme plastique à... Même si on ne sait pas tout ce que tu racontes, c'est arriver face à quelque chose, de laisser arriver même une méditation, une réflexion, Et on est porté aussi, j'allais dire, par toutes ces ondes-là et par ce résultat-là, sans savoir pourquoi. Enfin, je ne sais pas, moi, je sens fort les choses comme ça. Et je pense que ça laisse aussi, l'air de rien, beaucoup de place à un public aussi. Parce que c'est fort intéressant d'entendre tout ça, mais je pense que chaque personne peut aussi l'appréhender avec son histoire. Et ça, ça m'intéresse.
Une composition de Daphné Oram. Intangible, du 23 mars au 11 mai, au Drapier à Liège, avec Claire Williams et les Éthers, et Denise Biernaud, responsable du Centre d'art contemporain Les Drapiers. Nous sommes au Centre culturel de Namur et je suis avec Audrey Comtesse de ICA. Et je pense que vous avez décidé d'ouvrir l'espace, c'est bien ça ?
On a décidé effectivement avec le Centre culturel de Namur de parler des espaces publics ouverts. Donc c'est un peu la thématique fil rouge du Centre culturel de Namur. Et on a travaillé ensemble depuis un an. On a réalisé des ateliers participatifs, on a réalisé une série de conférences pour parler de l'espace public. Et là, ce moment, donc cette exposition qui s'appelle effectivement « Ouvrir l'espace », met en place un dialogue en fait entre des propositions d'experts et la parole des habitants et des habitantes ici de Baumel, mais aussi de Templou, puisqu'on a ouvert justement à la question de l'espace public, non seulement aux espaces publics urbains, mais aussi plus ruraux, donc pour des villages de plus petites dimensions. Et donc c'est un petit peu ce que l'on veut mettre en place, voir un petit peu quels sont les enjeux des espaces publics, quelles réponses on peut apporter en tant qu'acteur de l'espace public, donc autant en tant qu'habitant qu'en tant qu'urbaniste, paysagiste, architecte, et de voir un petit peu comment ces avis peuvent cohabiter ensemble.
Jusqu'au 5 mai, au Centre culturel de Namur, ICA ouvre l'espace. L'exposition invite les publics à découvrir des projets remarquables d'espaces ouverts et publics conçus par Live Architecture, Atelier Paysage, Baumans de Fête Architecture et Urbanisme, Générale Assemblée d'Architectes, MSA, Suède 36 et Urban Marker.
Donc moi je m'appelle Aurélien Jacob et je suis en charge de la médiation et d'une partie des projets à l'Institut culturel d'architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qu'on appelle donc plus familièrement l'ICA. Mon travail consiste essentiellement à créer du lien, donc à faire ce qu'on appelle de la médiation culturelle, c'est-à-dire à favoriser le fait que les gens s'approprient la question de l'architecture contemporaine et puissent en discuter. Et mon métier consiste également à faire en sorte que chaque voix qui puisse être entendue le soit. Et donc on s'adresse au public le plus diversifié possible, on essaye plutôt que de leur asséner une forme de culture, de les faire participer, et que ces réflexions émanent d'eux-mêmes de leurs propres expériences, et nous on récolte ces expériences, on leur donne des outils en fait pour exprimer, pour qu'ils puissent devenir en fait acteurs, actrices de leur espace.
Ces outils, c'est quoi ? C'est des cubes, c'est des dessins, c'est des photos ?
Alors quand je parle d'outils qui pourraient se ranger dans deux catégories différentes, donc d'abord des savoirs et puis des savoir-faire.
des savoir-être. Donc les savoirs, c'est plutôt donner des bases liées à l'appréhension de l'architecture, donc essentiellement du vocabulaire et des outils liés à l'observation. Comment je regarde un bâtiment, comment je peux l'analyser, qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est sortir du « ok, c'est moche, ok, c'est beau » et pour essayer de créer un argumentaire. Et ensuite, des savoir-faire, c'est oui, savoir regarder, savoir observer, mais aussi voilà, avoir une première approche et savoir apprendre à comment on lit un plan, comment on dessine une coupe, voilà, à s'intéresser, à donner des outils de base en fait, pour appréhender l'architecture, voilà, qui sont plutôt liés à des savoirs et à des savoir-faire.
Qu'est-ce que vous observez chez ces personnes qui, au départ, viennent comme ça et sont complètement néophytes ?
Alors, quand je suis arrivé à l'ICA au tout début de mes fonctions, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de résistance, en fait, une espèce de dédain ou de dire « Ok, l'architecture contemporaine, c'est trop élitiste, je comprends pas, ça m'intéresse pas ». Ça m'a surpris parce qu'en fait, il y a une forme d'invisibilité de prime abord. C'est quelque chose qui pourtant fait partie du quotidien, l'architecture qui nous entoure. L'architecture est partout, le bâti, le non-bâti, c'est absolument partout. Mais en fait, il y a d'abord une espèce d'absence de vision. Quand on force le regard, quand on ouvre l'observation, on est très vite vers de l'émerveillement. Même les tout petits arrivent à déceler un peu les envies, la logique d'un projet architectural, en fait. Donc, le déclic se fait assez rapidement quand on met les bonnes lunettes d'observation, disons.
Quand les gens sortent de chez vous, ils ont tout le temps le nez en l'air ?
Est-ce que les gens qui sortent de chez moi ont toujours le nez en l'air ? Alors, ça me fait penser à une remarque que j'avais eue à un des ateliers, un des tout premiers ateliers, où, en effet, on avait fait une visite guidée, d'ailleurs, ici, à Baumel, lors de la toute première exposition de l'ICA. Et une dame m'avait dit, mais maintenant, en fait, je vais regarder le quartier différemment et je vais lever la tête. Et donc, c'est déjà pour nous, en fait, un gros pas en avant si, en fait, les citoyennes et citoyennes en faisant en ligne Bruxelles peuvent simplement regarder autour d'eux et lever un peu le nez vers les façades.
Et vous-même, vous avez ouvert les yeux à quel âge ?
Alors moi, mon rapport à l'architecture, il est un peu curieux parce que moi, je viens pas du monde de l'architecture. Je suis historien de l'art à la base et donc j'emploie une méthodologie qui est issue de l'histoire de l'art, de la question de l'observation, de l'analyse esthétique. Et donc ça, moi, c'est quelque chose que j'ai en moi depuis toujours, bien avant mes études, évidemment. Après, les questions de la sensibilité à l'espace, je crois que ça, c'est quelque chose où qu'on peut déceler même tout petit. Il nous arrive de faire des ateliers avec des maternelles. Il y a déjà des enfants qui, à cet âge-là, expriment une réelle sensibilité à l'espace. Et donc ça, ça peut être cultivé. Et c'est un peu ça qu'on essaie de faire aussi.
Vous parlez de sensibilité à l'espace. Et il le manifeste comment ?
Alors la sensibilité à l'espace, elle peut se manifester de plein de façons différentes. Il y a un outil qui est très simple qu'on utilise, c'est l'outil du dessin. On voit assez rapidement un enfant qui arrive à voir les choses, à 5-6 ans, savoir faire une vue d'hélicoptère, donc faire un plan. Enfin, il y a des choses comme ça qui peuvent être exprimées rapidement. Et puis, après, tout ça est nourri par du vocabulaire, par des références, par des images qu'on leur montre, bien sûr.
Je m'appelle Audrey Comtesse et je suis directrice de l'Institut culturel d'architecture Wallonie-Bruxelles, qu'on appelle plus familièrement l'ICA.
Ouvrir l'espace, c'est aussi ouvrir les esprits.
Absolument, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire justement en mettant en place ce dialogue. Donc on a décidé de choisir 6 projets qui sont dans l'ouvrage L'inventaire 4 de l'architecture Wallonie-Bruxelles, dont le sous-titre révèle une démarche architecturale régénérative et qui fait donc l'inventaire de l'architecture contemporaine entre 2020 et 2023. Et il y a un chapitre sur la question des espaces publics. Et de ce chapitre, on a sorti 6 exemples très différents, à des échelles très différentes. Donc on a par exemple un projet qui propose une autre utilisation d'une place de stationnement pour le rendre aux habitants, pour en faire une place de pique-nique ou une place de chaises longues ou des choses comme ça. Donc c'est ce qui vous accueille quand vous arrivez à l'exposition ici au Centre culturel de Namur. Jusque, par exemple, au projet à Cheftogne qui a transformé en fait une ancienne zone de camping en une zone à nouveau ouverte à la nature où l'humain et la nature peuvent retrouver une nouvelle façon de coexister. Mais on propose aussi des parcs, donc le parc des Brigittines ou par exemple aussi le parc de la Jonction à Bruxelles qui a choisi de garder un vide, de l'assumer et de le rendre vraiment appropriable par l'ensemble des habitants autour. Et ça, par exemple, ça résulte d'un grand travail de participation, participatif qu'il y a eu. mais aussi, par exemple, à Verviers, avec le projet de Baumans de Fée, et un petit peu ce pari qu'a fait la ville de restructurer son centre-ville par une réarticulation de l'ensemble de ses espaces publics. Voilà un petit peu des exemples. Il y a aussi cet exemple à Bruxelles d'un projet qui a été fait par MSA et Neon Partner qui utilise justement les transports doux pour redévelopper toute une trajectoire qui était auparavant uniquement utilisée par les voitures, et aussi du coup de rendre une rue piétonne et comestible. C'est-à-dire qu'on crée dans la ville des potagers, et donc dans cette rue-là, ce sont les habitants qui s'occupent de ce potager, et ça devient donc un lieu de rencontre et d'échange. Et je pense que c'est vraiment ça qu'on veut quand on dit ouvrir l'espace, ouvrir les esprits.
Je m'appelle Aurélien Jacob et je suis chargé de la médiation à l'ICA et chargé aussi d'une série de projets. Et donc dans l'exposition Ouvrir l'espace, l'idée c'était de créer, comme André l'a dit, un dialogue. Et donc moi je me suis occupé de la partie dialogue du côté des citoyens et des citoyennes à partir d'un noyau dur, donc un petit groupe d'adolescents et d'adolescentes qui ont travaillé le temps d'une semaine ici à Baumel sur les questions de « ok, comment est-ce qu'on peut améliorer, comment est-ce qu'on peut se réapproprier les espaces autour du centre culturel ?» Et donc à partir de tout ce travail qui a été fait, donc on a réalisé des dessins, des coupes, des maquettes, c'est un travail qui a servi de base, en fait, à l'élaboration d'une maquette participative que vous allez pouvoir découvrir dans l'exposition et qui a, en fait, servi à d'autres échanges ultérieurs pour pouvoir nourrir, justement, cette thématique.
Donc à Petra, c'est ça ?
Voilà, donc c'est le bureau Alive Architecture, pardon, et donc Petra Fermenges qui s'est emparée de la question au travers de 3 ateliers participatifs, donc avec le comité de quartier, des enfants, des adolescents, aussi des familles, et ensuite des habitués du centre culturel.
On va aller rencontrer Petra alors.
Voilà, tout ça vient ?
Ben oui, très bien.
Oui.
Bonjour. On va passer ici après.
Enchantée.
Enchantée.
Mon nom, c'est Petra, du bureau Alive Architecture. Et nous, on fait partie des choses qui sont exposées ici aujourd'hui au Centre culturel de Namur.
On a fait 3 différents ateliers avec différents usagers du site autour du Centre culturel de Namur. Et donc, on les a permis d'utiliser différents outils impliqués dans la maquette. Donc, où est-ce que vous voulez plus des arbres? On a eu des matériaux avec lesquels on pouvait construire, par exemple, ce petit... Schauke,
balançoire.
Il y a aussi un toboggan ici qui vient depuis ce bâtiment en bas. Donc, il y a plein d'idées. Il y avait beaucoup de gens qui ont dit pourquoi pas transformer le mur ici vers un aire de jeu vertical. Voilà. Et donc, comme ça, il y a différentes idées qui se sont rassemblées dans cette maquette. Et donc, on a une deuxième partie de la maquette où les utilisateurs ou les visiteurs de cette exposition peuvent aller prendre des éléments et les impliquer dans la maquette, d'enlever d'autres, et comme ça reste vraiment une maquette vivante.
Donc moi, je peux aller chercher quelque chose là et l'ajouter ou le retrancher ou le retirer.
Oui, tout à fait. Tout le monde est invité de participer pour que ça reste très vivant, la maquette.
Vous n'avez pas peur que ça devienne quelque chose de complètement délirant ?
Ah non. En fait, c'est une maquette, ce n'est pas la réalisation. Et nous, on va s'inspirer. Par exemple, aujourd'hui, le choix qui est exposé ici, c'est le choix du CCN. Ce n'est pas notre choix. Et donc, on espère que les participants ou les visiteurs de l'expo vont commencer à échanger pour qu'on peut voir quelles sont les choses préférées par les usagers du site, pour que peut-être fin juin, début juillet, on pourra faire une petite intervention dans l'espace public.
Mais si vous étiez une personne visiteuse de l'exposition, vous ne connaissez pas ça, vous feriez quoi ?
Ah, d'accord, ok, je dois aller regarder. On vient de faire un projet à Bruxelles avec des jeunes filles entre 12 et 18 ans, et eux, elles ne se sentent pas sûres dans l'espace public. Donc, qu'est-ce que je ferais ? Je ferais peut-être maintenant avec cette expérience les lumières, et j'essaierais de le placer au long pour rendre l'espace plus sécurisé. Ça peut être une idée. Voilà, donc on pourrait les mettre un peu non organisés dans différents lieux, ça pourrait être une idée. Ou moi, j'aime bien la verdurisation, donc pourquoi pas amener quelques de ces arbres et dire qu'on garde cet espace ici vivant, mais on pourrait les amener aussi pour renforcer la verdurisation dans cet espace public. On pourrait également imaginer, documenter la présence des mobiliers urbains.
Est-ce que ce sont par exemple comme la table paysage à Bruxelles, une longue table avec des bancs où on peut s'asseoir pour se rencontrer entre habitants, usagers, etc. Voilà, il y en a plein de petites idées, quoi.
Quels sont les autres lieux où vous êtes intervenu? Je crois que vous êtes intervenu à Bruxelles.
Oui.
Je vois cette photo d'un mur où oui. Il y avait des tags
oui.
Et avec lequel vous avez fait un jeu
oui.
Pour les enfants. Vous pouvez parler de
en fait,
projet?
Oui, oui, en effet, c'est un mur qui était totalement sous-utilisé. C'était juste sécurisé pour que les gens ne vont pas entrer dans cet espace non utilisé avec du bois. Et donc, ce que nous avons fait, c'est de transformer ce mur avec les utilisateurs de l'espace public vers une aire de jeu vertical où on a vraiment installé des petits trucs pour grimper en haut. On a peint tout le mur avec les usagers et c'est devenu vraiment une aire de jeu vertical. Voilà, c'est une des interventions. Une autre intervention, c'est la Parc Femme, peut-être vous avez en entendu. Voilà, on a gagné quelques prix avec. C'était déjà en 2014 où on a transformé, on a co-construit un parc, un nouveau parc à Tour et Taxi ensemble avec les habitants et on a créé une SPL pour que ce sont les habitants même qui vont gérer le lieu et c'est ce qu'ils gèrent aujourd'hui ensemble avec Bruxelles Environnement depuis 10 ans maintenant. Donc il y a la grande fête qui va arriver en juin cette année.
Ça doit être un plaisir pour vous de voir que ces projets continuent à travers les années.
Tout à fait.
Ça crée, je suppose, du lien, les gens qui se parlent mieux.
En effet. Et donc, c'est là où on espère, on essaye toujours de faire des interventions dans l'espace public qui sont durables. Donc, ne pas faire juste des interventions temporaires. On les fait des fois temporaires pour tester. Mais donc, au cas où c'est un succès, les projets continuent, ils deviennent durables, qui restent 10 ans, 20 ans ou plus.
Comment ça se passe au début? Comment vous contactez les gens? Est-ce que ce sont des associations de quartier, des gens qui passent comme ça? Comment ça se passe?
Ça a fortement changé pendant les dernières 10 années. Donc, on a fait la Parc Femme, c'est moi-même qui allais dans l'espace public pour créer la confiance avec les habitants. Donc, j'ai passé plus que 40 heures par semaine pour créer ce lien avec les usagers du site. Aujourd'hui, on collabore toujours avec des associations qui ont le lien, qui ont déjà la confiance des habitants. Et c'est eux qui nous amènent vers les habitants. Et après, on essaie de créer des ateliers qui sont assez excitants pour qu'ils continuent et invitent leurs voisins et leurs amis de nous rejoindre aussi dans les ateliers.
Et c'est quoi un atelier excitant?
Bah, c'est toujours, en fait, pour nous, ce qui est important, c'est l'espace vécu. Donc, ça veut dire d'un côté de générer un usage de l'espace public, mais d'autre côté aussi de s'approprier l'espace public en le faisant soi-même. Donc, ça veut dire que d'un côté, on fait un concept d'une intervention dans l'espace public, mais d'autre côté, on le fait ensemble avec les habitants pour qu'eux le construisent eux-mêmes et plantent eux-mêmes et peignent eux-mêmes pour y avoir vraiment une appropriation de l'espace public, quoi.
Je suppose que cette appropriation fait qu'on respecte mieux le lieu aussi, non?
Tout à fait. Donc c'est là où on a eu du succès, surtout avec la Parc Femme, mais en général avec nos projets à Bruxelles, où il y a très très peu de vandalisme qui se passe. La Parc Femme, elle a été construite d'une serre en verre, et il n'y a presque personne qui l'a touchée ou qui voulait faire quelque chose de mauvais avec cette œuvre, quoi.
Ouais. Quels sont vos plus beaux moments, vos plus belles surprises?
Ah, on a par exemple construit, on a transformé un ancien tennis à Louvre, Bruxelles, vers un jardin, des curiosités, où ensemble avec les habitants, on a co-planté le jardin et on a co-construit des petites interventions dans l'espace public, des micro-installations avec des matériaux réutilisés. Et chaque année, en juin, ça redevient jaune parce qu'on a mis toute la plantation en jaune, comme la tennis ball, la balle de tennis. Et donc, ça, c'est un bon moment de retourner, de revoir les habitants en juin et de voir que cet espace est vif assez bien, elle est bien vivant, jaune, avec la fleurie des fleurs, quoi.
Quel est votre souhait le plus cher après tout ça?
Mon souhait le plus cher, c'est qu'on parle un peu plus d'architecture, essentiellement au niveau des écoles. Donc on a initié avec l'ICA tout un travail au niveau des écoles en façon de Bruxelles. Et ça, c'est vrai que c'est un souhait que j'ai, un projet qu'on mène à l'ICA, qui serait qu'on parle un peu plus d'architecture contemporaine, en particulier à l'école.
Et à votre avis, si on parle plus d'architecture à l'école, est-ce que notre société va changer, va muter vers un mieux?
C'est une question très philosophique, presque métaphysique, avec une réponse qui, à un moment donné, je pense, doit être réaliste. C'est-à-dire que On peut proposer des outils. La vocation de l'ICA, c'est pas de créer des vocations d'architectes, c'est plutôt d'offrir des outils pour discuter de l'espace. Et en particulier dans la thématique de cette exposition-ci, les espaces publics, les espaces ouverts, comment est-ce qu'on se les approprie? Est-ce qu'un espace est public, et on a eu ces réflexions-là pendant les ateliers, où en fait c'est juste la rue, c'est ce qui sert à relier un point A à un point B, et en fait pour toute une série de personnes c'est tout à fait autre chose. Et donc, pour répondre à votre question, je crois que ça peut contribuer à changer les mentalités, parce qu'en fait on offre des outils et on permet en fait de relativiser des savoirs, des préjugés qui sont souvent très ancrés, et quand on les relativise, on crée de la critique, on crée du libre arbitre, on crée de la réflexion, et ça je pense que l'architecture est un outil fabuleux pour former à la citoyenneté. Ça permet en tout cas de faire entendre des voix, et je pense qu'une population qui est à l'écoute et qui est informée est une population qui a des outils et qui a un pouvoir.
Ouvrir l'espace. Au Centre culturel de Namur, jusqu'au 5 mai, une exposition menée conjointement avec le Centre culturel de Namur et ICA, Institut culturel d'architecture Wallonie-Bruxelles. Avec le soutien de la Direction des arts plastiques contemporains et de la cellule architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Réalisation Christine Van Acker, mixage Thierry Van Roy.
Retrouvez Par où dire tous les jours de la semaine entre 22 et 23 heures.
Oui.
Oui, oui.
La première. Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.